que nos programmes vont maintenant se poursuivre en français. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission préparée par la rédaction française de Radio Prague. Comme chaque samedi, trois rubriques figurent au programme de la prochaine demi-heure. Nous ferons ainsi le tri de votre courrier, comme tous les 15 jours désormais. Puis la rubrique littéraire sera consacrée à un entretien avec le poète belge Werner Lambertsy, présent à Prague la semaine dernière dans le cadre du Festival des écrivains. Mais avant cela, place tout d'abord à Culture sans frontières. Tout de suite, nous retrouvons donc Anna Kubiszta pour nous en dire un peu plus. Très bonne écoute à toutes et à tous.
Culture sans frontières.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission culturelle. Une émission culturelle qui sera consacrée aujourd'hui à une artiste tchèque oubliée. Une artiste tchèque qui s'appelle Ružena Zátková, qui était une artiste futuriste. On reviendra évidemment sur ce qu'était le futurisme avec la personne qui a organisé l'exposition qui se déroule actuellement aux écuries impériales du château de Prague. Cette personne, la commissaire de l'exposition, c'est Alena Pomezlova, que j'accueille aujourd'hui dans cette nouvelle émission culturelle. Alors, je vais commencer par vous poser une question très simple. Comment avez-vous découvert Ružena Zátková?
J'ai découvert Ružena Zátková en étudiant l'italienne. Et j'ai lu le livre sur futurisme italien. J'ai trouvé que existe une artiste tchèque qui a travaillé avec les futuristes. Puis, quand on a préparé une grande exposition de futurisme à Venise, j'ai aidé à l'organisateur tchèque, František Šmejkal, et j'ai traduit un texte dans le catalogue. Et depuis ça, j'étais intéressée à son art et à la personne de Ružena Zátková.
C'était quand, cette exposition?
C'était à la fin des années 80.
D'accord. Donc en fait, ça fait à peu près une vingtaine d'années que vous vous intéressez à Ružena Zátková et aujourd'hui, elle a enfin une exposition ici à Prague.
C'était très difficile parce que je devais attendre parce que les matériaux sont dans tout le monde, on doit dire. Je pense que seulement après la Révolution, on a pu voyager. Avoir les argents pour les recherches.
Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire qui était Ružena Zátková et comment est-ce qu'elle est arrivée finalement à l'art?
Elle est née en Bohème du Sud, dans une famille respectée, patriotique. Sa mère était pianiste et tous les enfants ont étudié musique, l'art et les langues. Tout ça a changé après le déplacement à Prague où Ružena a étudié musique et peinture à l'école privée de Antonín Slavíček. Mais le changement le plus grand et principal était après son mariage avec le diplomate russe Vassili Hoshinsky, qui a travaillé à l'ambassade de Rome. Alors en Italie,
elle déménage en Italie avec son mari, évidemment, qui est diplomate.
Oui, en 1910. La conception de l'art changeait complètement, parce qu'à Prague, c'était plutôt la peinture traditionnelle. En Italie, elle a connu les futuristes, l'avant-garde russe. Elle a commencé à faire les œuvres de la qualité diverse.
Mmh. Alors, qui rencontre-t-elle justement dans ce cadre à Rome? Quelle personnalité rencontre-t-elle? Avec qui lit-elle des liens d'amitié, par exemple?
Elle a connu le sculpteur Ivan Meštrović, qui a fait son portrait une statue, un portrait, une statue, le portrait. Puis Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Filippo Tommaso Marinetti, parmi les personnages principaux de l'art italien. Puis les artistes autour de Sergei Diaghilev et les ballets russes, c'est-à-dire Léon Bakst, Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev, Mikhail Larionov et Natalia Goncharova.
Donc que du beau monde, quelle rencontre à l'époque. Alors comment se passe justement ce séjour italien? Évidemment, vous dites que c'est une rupture dans son art. Combien de temps reste-t-elle et que crée-t-elle justement sur place?
En Italie, elle a vu une conception totalement différente de l'art. Elle a fréquenté l'atelier de Giacomo Balla, qui a travaillé avec les matériaux, avec, je ne sais pas, les cartes, les cuir, métal, etc. Elle a vu qu'on peut travailler d'une manière diverse. Et s'exprimer par exemple avec l'abstraction, avec des matériaux. Et...
Alors justement, vous parlez de ces matériaux, il y a une sculpture en particulier qui est assez caractéristique ou révélatrice de ce changement total d'orientation artistique. Alors c'est une statue qui a malheureusement, une sculpture plutôt, pas une statue, une sculpture qui a disparu mais dont vous proposez ici une réplique. Alors comment s'appelle cette œuvre et est-ce que vous pourriez un petit peu nous la décrire pour les personnes qui ne peuvent pas la voir puisque c'est de la radio?
Il s'agit de la construction de bélier, c'est-à-dire une machine qui aide à construire des bâtiments. Ce n'était pas la statue traditionnelle parce qu'elle voulait exprimer les bruits et le mécanisme de la construction. Alors c'est une construction de matériaux, de métal, carte, cuir, verre, très dynamique, qui voulait exprimer plutôt les sensations du bélier que l'objet.
D'accord, donc reproduire en fait finalement ce que le bélier, sa fonction ou disons ce qu'il produit dans l'espace plutôt que l'objet en lui-même. Et alors cette œuvre en question a disparu?
Oui, parce que les matériaux n'étaient pas durables. Et alors, on peut voir à l'exposition la reconstruction par ordinateur qui était préparée ou qui était faite par un sculpteur tchèque, Michal Gabriel. Et puis, après, cette reconstruction a été imprimée, faite par MK System en Amérique.
Pour revenir un petit peu à Rougena, alors en dehors du fait que ce qu'on peut voir à cette exposition, c'est que c'était une très belle femme. Son visage, je trouve, vraiment est central quand on regarde les photos. Elle a vraiment un visage qui a du caractère. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que je trouve qu'elle fait plus méditerranéenne que tchèque quasiment. Quelle était sa personnalité de ce que vous avez pu découvrir sur elle voilà, au quotidien avec sa famille, sa sœur? J'ai vu qu'elle avait un lien aussi fort avec sa sœur et puis avec les personnes qu'elle côtoyait.
Je pense que, en comparaison que sa sœur, qui est restée en Bohème, et a continué avec les œuvres traditionnelles, elle a complètement changé son art. Et pour dire que plus important que son art était pour elle un moyen pour se libérer. Parce qu'elle a cherché plutôt la libération du pinceau, la libération de l'art, la libération d'elle-même. La possibilité de faire l'art était, on peut dire, tolérée dans la société de cette époque. Alors, elle faisait l'art pour se libérer, on peut dire.
Est-ce que vous pensez que Ruzhena Zadkova était une féministe aussi?
Je pense que ces catégories n'étaient pas à cette époque on n'utilisait pas ces catégories. Je pense qu'elle travaillait plutôt comme un homme qu'une femme. Par exemple, les femmes de cette époque étaient plutôt orientées vers l'art décoratif, les tissus, les illustrations. Elle a fait les constructions plastiques. On peut dire que les hommes de l'art tchèque ont fait les choses comme ça.
Pourtant, j'ai vu quand même qu'elle avait. C'est elle qui a réalisé les pages d'illustration du livre du roi David, qui c'est très beau, qui est un peu orientalisant comme ça. Oui. C'est vrai que par rapport à tout son autre travail, c'est quelque chose qui est un peu différent.
Oui, elle a fait ses illustrations en Suisse parce que en 1916, elle est tombée malade, tuberculose, et elle était transportée à Lausanne en Suisse. Elle est restée ici par 3 années. C'était une rupture totale parce que en 1916, elle a fait ses travaux expérimentaux. Et elle a changé complètement son avis de l'art. Elle a vu la relativité des tendances modernes, par exemple le futurisme, et elle a voulu trouver quelque chose immobile, stable de l'art. Elle s'est tournée vers le foie et elle a fait ses illustrations avec l'inspiration des manuscrits médiévaux et les miniatures patiennes.
C'est magnifique d'ailleurs. Alors c'est intéressant, finalement, on voit que Ruzhena Zadkova n'était pas... déjà, on ne peut pas la catégoriser tant que ça, et elle n'était pas fixée, c'est-à-dire qu'elle avait l'esprit ouvert, qu'elle était prête à changer finalement en fonction de l'évolution de sa perception finalement.
On peut dire que c'était une artiste postmoderne, on peut dire ça. Pré-postmoderniste.
Une artiste pré-postmoderne, d'accord, c'est très bon comme définition. Pour terminer, pourquoi Ruzhena Zadkova est tombée dans l'oubli toutes ces années? Et alors heureusement, grâce à vous, aujourd'hui, on peut la redécouvrir ici aux écuries impériales du château de Prague. Mais pourquoi tant d'années de silence finalement?
Malheureusement, elle est morte très tôt, en 1923, quand elle avait 38 ans. N'a pas réussi de faire l'exposition à Prague. Elle a voulu le faire en 1923, mais elle est morte. Puis aussi en Italie, on ne parle pas plus de ses œuvres. Seulement pendant les années 60, quand on a étudié de nouveau le futurisme, on a découvert que existe cette femme extraordinaire et on peut voir quelques de ses œuvres, mais je pense que seulement maintenant on peut voir le maximum qu'on peut trouver dans tout le monde.
Alors je rappelle que cette exposition aux écuries impériales se déroule jusqu'au 31 juillet 2011, si c'est bien ça, Alena Pomaislova.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était donc Alena Pomaislova, commissaire de l'exposition consacrée à Ruzhena Zadkova. Alena Pomaislova répondait aux questions d'Anna Kubishta. Anna qui laisse maintenant la place au micro à Magdalena Rozinkova. Magdalena qui va nous accompagner pour l'une de vos rubriques parmi les plus appréciées, la rubrique consacrée désormais une fois toutes les 2 semaines à votre courrier.
Courrier des auditeurs.
Bienvenue chers amis à l'écoute du courrier des auditeurs, une émission bimensuelle consacrée à vos lettres, vos questions, remarques et suggestions. Nous avons le plaisir de constater que nos fidèles auditeurs du temps des ondes courtes se sont familiarisés avec l'écoute sur Internet, qu'ils continuent à nous écrire, bien que, franchement dit, le courrier ne soit pas aussi abondant qu'auparavant. Nous avons d'autant plus de plaisir lorsque vous nous écrivez. Évidemment, la nostalgie des ondes courtes est toujours présente. Philippe Marson de Biganos, en France, a effectué un essai par Internet le samedi 2 avril. Il a écouté notre programme de 19h à 19h20 et nous écrit.
Il est vrai que le son est de 5 sur 5 en synpo général, mais il n'y a plus le charme de prêter l'oreille, d'essayer au fil de l'aiguille et du cadran de se caler sur 5930 kHz avec un récepteur dont l'âge avoisine les 60 ans. Pourtant, c'était bien du plaisir quand enfin on entendait la voix de l'amitié d'un journaliste francophone venu de Bohême, autre époque que celle des années 50-60, qui semble bien lointaine à ceux qui, comme moi, sont nés à l'âge d'or de la radio, des balbutiements de la télévision analogique, de l'image en noir et blanc, pour voir aujourd'hui se taire les ondes courtes, arriver l'Internet et la télévision numérique. Que de chemin parcouru en notre génération que l'on appelait celle du baby-boom et de l'âge atomique.
Dans un autre email, vous nous dites, Monsieur Marson, avoir apprécié la rubrique d'Alexis Rosenzweig intitulée « Allô Paris, allô Bruxelles » et qui nous tient au courant chaque mois de l'actualité tchèque dans ces deux capitales européennes. Vous vous souvenez, Monsieur Marson, avoir visité le centre tchèque de Paris, rue Bonaparte, il y a environ 10 ans au moment de Noël. Enfin, vous nous écrivez ceci.
Pourquoi ne pas relayer Radio Prague sur un émetteur d'un autre pays de l'Europe, en ondes moyennes ou courtes? Cela vient de se réaliser avec vos collègues de la Voix de la Russie par l'émetteur de Monte Ceneri en Suisse.
Cher Philippe Marson, l'avenir de Radio Prague vous tient visiblement à cœur et cela nous réjouit. Hélas, le retour de Radio Prague sur les ondes semble pour l'instant très difficilement réalisable. Mais comme on dit en tchèque, nikdy neříkej nikdy, il ne faut jamais dire jamais.
Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la rédaction française de Radio Prague.
Écrit Hervé Briand de Talence en France et il poursuit.
Je reste fidèle à vos programmes, mais particulièrement à ceux du samedi et dimanche. Pas de commentaires sur votre actualité politique qui est riche. Elle ressemble à celle de beaucoup de pays. Côté programme, j'ai beaucoup apprécié la petite histoire de l'exil tchécoslovaque en France et bien sûr le programme musical du dimanche. L'année dernière, vous aviez fait un reportage sur les brocantes à Prague et sur ce phénomène. Avec le printemps qui arrive et avec les jardiniers qui se mettent au travail, une nouvelle sorte de brocante consacrée aux plantes commence à se répandre un peu partout en France. Il s'agit d'un troc-plante où les personnes échangent plantes, fleurs, etc. Mais où il n'est pas question d'argent, uniquement d'échange. Cette démarche est portée plus particulièrement par les mouvements écologistes. Cette pratique existe-t-elle également en République tchèque ?
Non, Monsieur Briand, à notre connaissance, une telle brocante n'existe pas chez nous. Mais nous avons appris que le cinéma Oko, un cinéma d'art et d'essai à Prague, Holešovice, organisait le samedi 21 mai de 10h à 14h une brocante consacrée au film et à la musique, et où l'on pourra échanger, mais également vendre ou acheter des vieilles cassettes audio et vidéo, des disques vinyles, des CD et DVD, ainsi que des baladeurs. Notre auditeur algérien Noari Nagmouchi souhaite connaître des sites intéressants sur la République tchèque. Eh bien, monsieur Nagmouchi, il y a un site web très intéressant en français qui s'appelle Atouprague, www.a-tout-prague.com. C'est en fait une version internet du magazine et guide Atouprague où l'on peut trouver des informations, reportages et entretiens non seulement sur Prague mais sur toute la République tchèque. Le message de Christian Guiboudot a fait particulièrement plaisir à l'auteur de cette rubrique.
Dans l'émission de ce samedi, j'ai beaucoup apprécié l'interview avec Catherine Cussé. Je vais acheter le livre en question.
Merci monsieur Guiboudot pour votre courriel. Je rappelle qu'il s'agit du roman Un brillant avenir paru chez Gallimard en 2008.
Chers amis, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour Pâques et je reste toujours fidèle à Radio Prague. Merci pour tout.
Nous écrit Stefano Citerio de Bergame en Italie. Merci à vous, monsieur Citerio. Nous souhaitons à notre tour de très bonnes fêtes pascales à tous les auditeurs de Radio Prague. Nous saluons surtout notre auditeur japonais Osamu Aikawa, pour qui nous avons une pensée particulière. Nous espérons que vous vous réservez un petit moment pour nous écouter ou lire dimanche et lundi sur www.radio.cz. Par ailleurs, la semaine prochaine, Radio Prague lance un concours musical. Nous vous en dirons plus très bientôt.
Voilà, merci donc à Magdalena pour ce courrier. On retrouve maintenant Václav Richter, notre spécialiste littérature, Deux poètes francophones faisaient partie des invités du Festival des écrivains qui s'est tenu à Prague du 17 au 20 avril dernier. Michel Deguy et Werner Lambercy. Ce dernier, un des plus importants poètes belges de langue française de notre temps, a su marier dans son œuvre l'Occident et l'Orient. Son écriture poétique est donc un amalgame de deux sensibilités dans lesquelles il a su trouver d'ailleurs beaucoup d'aspects communs. Il en a été question, entre autres, dans un entretien que Werner Lambercy a accordé à Václav Richter.
Rencontre littéraire. Vous êtes né dans un milieu néerlandophone. Pourquoi avez-vous choisi le français comme la langue de votre poésie, comme l'instrument de votre poésie?
C'est une vraie question, mais c'est un peu long parce qu'il y a de l'histoire derrière. Donc je suis né à Anvers, effectivement, qui est un port où il y a une communauté juive importante, encore toujours à l'heure actuelle. Et aussi où on pratique 4 ou 5 langues dans chaque famille, enfin comme dans tous les grands ports à peu près. Ma mère est d'origine juive, Anvers c'est très courant, et mon père, lui, est un flamand de souche, comme on dit aujourd'hui en France, est un flamand, qui est un jeune orphelin. Son père est mort en 18 de la grippe espagnole, et donc il s'est fait tout seul. Il connaît 6 langues, il lit beaucoup. Comment il a rencontré ma mère, je ne sais pas. Ils me font en 41 et en 42, mon père, tout à fait convaincu, s'engage dans la SS. Mon père est mort à 90 ans, il n'a jamais changé d'avis, il a toujours été SS, il a toujours été nazi. Et donc on ne s'est pas très bien compris, ni moi ni lui, enfin, on s'est mal entendu. J'arrive à la question que vous posez. Quand je commence à écrire, je dirais que j'écris assez naturellement en néerlandais, c'est plutôt ma langue maternelle. Hein, c'est celle de ma grand-mère qui m'a élevé. Mais mon père est en prison, donc je le connais pas. Ma mère, elle s'occupe de sa vie, très compliquée. Et puis je me dis, mais dans quelle langue je vais écrire? Et puis, il se trouve que mon père sort de prison et tâche de me récupérer. Donc il est gentil avec moi. Et il essaye de me convaincre. Et il me montre tout le système, à l'époque, hein, de ce qui était bien le nazisme et le fascisme le plus efficace, je dirais, mais qu'on ne voyait pas encore. Il fallait être initié, il fallait savoir. Donc je vois ce qui se prépare, avec horreur. Hein, parce que ma mère et moi, on n'était pas du tout comme ça. Donc je vois avec horreur ce qui se prépare et je dis, il n'y a qu'une façon de protester contre ça. C'est pas la peine de dénoncer mon père, c'est pas la peine de dénoncer des choses. Il faut simplement dire que le fascisme est en marche, que ça va revenir très vite et très fort, et que c'est dans la langue que ça va se jouer. Donc je vais faire un clash, et je vais choisir une autre langue.
Pourquoi écrivez-vous de la poésie et quelles sont les sources de votre poésie?
Parce que je suis bon qu'à ça. C'est la réponse de Beckett. Alors, il disait, mais pourquoi vous écrivez? Il dit, il a mis bon qu'à ça. Bon, je me suis jamais posé la question. Après, si. Après, des amis m'ont dit, mais tu écris un roman, ta vie, tout ce que tu veux, enfin, etc. Mais je ne suis pas bon pour ça. Mon expression naturelle, c'est vraiment le poème ou ce que j'appelle moi le poème, hein, je ne sais pas. Est-ce que ce sont des poèmes? Je n'en sais rien. On m'a catalogué comme ça. Et j'ai cette pratique d'écriture qui fait que je n'écris que des livres de poésie.
Qu'est-ce que la poésie au XXIe siècle? Est-ce que c'est la même chose que par exemple au XIXe, où il y a une évolution?
C'est pas la même chose, mais le besoin en est le même. Je veux dire, les idéologies sont mortes, on l'a dit, on a raison. Les grands mouvements sont morts, on l'a dit, on a raison. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que même si les idéologies sont mortes, même si les grandes politiques sont mortes, même si les grands projets sont en train de mourir et qu'on n'a pas bien remplacé, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est pas non plus une grande victoire. Il y a une chose qui est restée, c'est la générosité. Mettre le monde au monde tous les jours, mettre le monde des hommes dans le monde, mettre les hommes dans le monde des hommes tous les jours, ça c'est resté. Ce manque que nous avons, la beauté, ça n'a pas de visage défini. Il n'y a pas de règles. Il y a une beauté antique, grecque, dont on se fait une idée, moyenâgeuse, dont on se fait une idée. Mais ça, c'est après. Il n'y a pas d'image toute faite, absolue de la beauté. La beauté, c'est ce que nous, c'est le regard que nous jetons vers elle, le besoin que nous en ressentons, la nécessité que nous avons, le manque qui nous habite. Et ce manque nous habitera toujours. Ce qui fait fonctionner le monde, c'est le désir. c'est le désir. Or, le désir, par définition, c'est inachevable. C'est l'insatisfaction pour toujours. Cette insatisfaction est le moteur de la vie, est le moteur de la poésie. Et je suis donc perpétuellement un homme en colère, perpétuellement un homme passionné et perpétuellement un homme amoureux.
Pour qui écrivez-vous? Avez-vous à l'esprit un lecteur concret ou c'est une bouteille jetée à la mer comme ça?
Ni l'un ni l'autre. C'est vraiment, comment dire, c'est une nécessité vitale. Je me sauve la vie à moi-même. Si il m'est arrivé de m'imposer de ne pas écrire pour voir, je ne sais plus ce que je fais là. Je ne sais plus ce que je fous sur cette putain de terre. J'adore ma femme, j'adore mes enfants et beaucoup d'autres. Et je ne sais plus pourquoi je suis là. C'est... J'ai pas de mission, hein. Je me suis pas donné la mission d'être un poète. Ça n'apporte rien, ça n'est pas un privilège, ce n'est pas un état d'exception. Simplement, je ne suis que ça. Et s'il n'y a pas ça, je comprends plus le monde.
Vous avez beaucoup voyagé dans les pays de l'Orient. Qu'est-ce que cette connaissance de l'Orient vous a donné à vous et à votre poésie?
C'est pas une connaissance, hein. Je ne suis pas un orientaliste, comme on dit, hein. Mais j'ai voyagé, c'est vrai, j'ai vu, j'ai lu surtout beaucoup, hein. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller beaucoup, et en Inde, et en Chine, et au Japon, et dans tous ces pays-là, mais aussi en Europe de l'Est à l'époque, et aussi, et après, et aussi aux États-Unis, etc. Donc j'ai cette chance de pouvoir manipuler toutes sortes de littérature, voir la musique que ça donne ici et là. J'ai été passionné par les littératures qui sont nées sous mes yeux. C'est rare des littératures qui naissent. J'ai eu cette chance. Donc partout, j'ai vu naître des poésies. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc ces choses-là m'ont évidemment beaucoup influencé. J'ai dit finalement, ça naît tout le temps. On crie tout le temps que ça va mal, que la poésie disparaît, qu'il n'y a pas de public. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il n'y a plus de public ici, en France par exemple, mais il y en a beaucoup ailleurs. Et puis ça s'inverse, ça change. Donc, le besoin est permanent, je n'ai aucune inquiétude. J'allais presque dire, quand ça va mal dans le monde, ça va très bien pour la poésie. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de fondamentaux. Ils veulent revoir, qu'est-ce que je fous sur cette terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre pas? Etc. Les grandes questions arrivent. La poésie ne répond pas, mais quand même elle aide. Elle aide terriblement à survivre. Les gens qui rentraient dans les fours crématoires récitaient des poèmes. Les gens qui étaient dans les stalacs écrivaient des opéras, écrivaient des poèmes, écrivaient des oratorios. Il fallait, ça aide à vivre.
Dans quelle mesure l'Orient a influencé aussi votre poésie au niveau de la forme? Je sais que vous utilisez ça, parfois.
Je reviens donc à la question que vous avez bien voulu poser, hein, mais par le biais. C'est-à-dire, l'Orient a été ceci. C'est que j'étais très intéressé parce que je suis... Ma langue maternelle est le flamand, et donc l'allemand, c'est pas très loin, hein, par ce qu'on appelle les mystiques rhénanes. Donc pour moi, celle qui est née dans ma ville, Adewijk d'Anvers, c'est une magnifique mystique, superbe, le langage, superbe. Mais après ça, il y a tous les mystiques allemands, hein, Maître Eckhart, mais il y a aussi Angelus Silesius, enfin, on va pas les citer, mais il y en a des dizaines, Ingrid de Suède, etc. Donc j'étais très attiré par cette forme, d'autant plus, comme je suis athée, mais que j'ai fait 12 ans chez les jésuites, j'aimais bien cette sorte de confrontation. Tous ces grands mystiques, l'Église, ça la faisait chier. Il n'y en a pas un qui est devenu saint. Eckhart est passé en procès, certains, comme Porret, ont été brûlés, d'autres ont été mis à l'écart. Ça n'intéresse pas le pouvoir religieux, les mystiques, ça ne va pas. Je vais en Orient, la première chose que je trouve, c'est le même discours. Alors les uns diront c'est zen, c'est tout ce qu'on veut, mais ils parlent du néant comme le mystique, ils parlent du vide, ils parlent du manque, ils parlent de la méfiance qu'ils ont de la parole écrite et dite, etc., de la même façon que nos mystiques. On peut pas dire, mais on dit quand même. On n'y arrivera pas, mais on essaye quand même. Et je trouve une sorte de fraternité d'idées, de sentiments et de besoins entre ces gens d'Orient, dont tout d'un coup je me dis, mais... Pourquoi avoir fait comme à l'école les matheux et les littéraires? C'est pas vrai. Je me sens aussi matheux que n'importe qui et pourtant on m'a classé dans les littéraires. Eh bien, je ne suis pas orientaliste, mais je me sens chez moi.
C'était le poète belge Werner Lambertz. Il répondait aux questions de Václav Richter. C'est avec lui que s'achève cette rubrique littéraire et avec elle pour cette fois le programme en langue française de Radio Prague. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité tchèque. Ahoj.
Radio Praga con